VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde. Aujourd'hui, édition du mercredi 11 janvier 2017, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Nous commençons par le discours d'adieu de Barack Obama. Le président Barack Obama a prononcé hier soir à Chicago son discours d'adieu après deux mandats à la Maison-Blanche. Monsieur Obama a d'emblée mis en exergue les progrès réalisés depuis 8 ans en disant que l'Amérique est aujourd'hui meilleure et plus forte.
If I had told you 8 years ago that America would reverse a great recession, reboot our auto industry.
Si je vous avais dit il y a 8 ans que l'on sortirait de la grande récession, que l'on allait relancer notre industrie automobile et entamer la plus grande période de création d'emplois, vous auriez dit que nous étions trop optimistes. Même chose pour la reprise des relations diplomatiques avec Cuba, l'accord sur le nucléaire iranien et l'élimination du cerveau de l'attentat terroriste du 11 septembre 2001 aux États-Unis, Oussama Ben Laden. Monsieur Obama a aussi vanté les mérites de son plan d'assurance maladie, la légalisation du mariage gay, des réalisations du peuple américain grâce à son message de changement, a-t-il souligné. Barack Obama a axé son discours sur les menaces à la démocratie et les défis de notre temps. Reconnaissant la portée historique de son élection en tant que premier noir à accéder à la présidence des États-Unis, M. Obama a déclaré.
After my election, there was talk of a post-racial America.
Après mon élection, on a beaucoup parlé d'une Amérique post-raciale. Malgré les bonnes intentions qui caractérisent une telle vision, elle n'était jamais réaliste. Car la race reste un sujet qui divise souvent dans notre société. Barack Obama s'est voulu cependant rassurant en soulignant qu'il avait vécu assez longtemps pour savoir que les relations raciales sont aujourd'hui meilleures qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. Et si on peut le voir, et on peut le voir non seulement dans les statistiques, mais aussi dans les comportements de la jeunesse américaine. Parmi les autres défis, M. Obama a parlé du groupe État islamique qui tue des innocents, mais n'arrivera jamais à défaire l'Amérique et les idéaux qui la rendent spéciale à travers le monde face à des rivaux comme la Chine et la Russie. Il a mis en garde contre l'affaiblissement des valeurs américaines face à la peur, notant ses efforts pour interdire la torture et réformer les lois sur la surveillance et la fermeture de la prison de Guantanamo Bay à Cuba. Et M. Obama a souligné que c'est pour cette raison qu'il rejette la discrimination contre les musulmans américains. Vers la fin de son discours, Barack Obama a cédé à l'émotion, mais s'il a craqué, c'était en rendant hommage à sa femme Michelle et à leur famille.
Michelle LaVon Robinson, girl of the South Side.
Michelle, pendant ces 25 dernières années, vous avez été non seulement mon épouse et la mère de mes enfants, mais aussi ma meilleure amie. Et sous un tonnerre d'applaudissements, Barack Obama a ajouté à l'intention de ses filles Malia et Sacha, de tout ce que j'ai fait de ma vie, ma plus grande fierté est d'être votre père. Dans moins de 2 semaines, le démocrate Barack Obama cédera la place au président élu Donald Trump et dans son discours, il a tenu dans un esprit d'unité à parler à tous ses concitoyens, y compris à ceux qui ont voté pour le républicain Trump. Le meilleur moyen, selon lui, pour assurer une transition en douceur et relever ensuite les défis qui assaillent la nation. Pour une réaction à ce discours de Barack Obama, Jean-Roger Bion a contacté le professeur Leonard Van Chekon de Princeton University, ici aux États-Unis.
Il a placé son bilan sous le signe du progrès économique, sur le plan de la cohésion nationale, surtout la cohésion interraciale. Ce que j'ai également aimé, c'est sa reconnaissance que les inégalités n'ont pas diminué, bien au contraire. Donc il reste que le pays est très polarisé sur le plan social, à cause des inégalités.
Alors avez-vous senti des moments d'amertume ou des regrets?
Bien sûr, tout ce qui se dit actuellement par rapport à changer de cours, par rapport à sa politique, notamment sur la question de santé, et le manque de reconnaissance par l'administration qui sera au pouvoir dans quelques jours, par rapport à tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a représenté donc pour le pays. Mais en fait, ce qui est vrai, c'est que c'est la politique. Mais c'est quand même, ça va un peu trop loin, Le rejet total de ce qui a été accompli et qui reste très, très évident. J'insiste surtout sur les aspects économiques, Sachant que le pays était dans la crise lorsqu'elle est venue, et maintenant, il y a eu des progrès, il y a la croissance, il y a la réduction de la pauvreté, la réduction donc du chômage de façon continue depuis donc ces dernières années. Donc,
alors, ce discours, ça, pour terminer, professeur, est-ce qu'il vous a paru anti-Trump, selon vous?
Bien sûr. Enfin, le ton, le ton l'est, et le contenu également l'est. Donc, vous voyez le contraste entre les deux, non seulement sur le plan politique, mais également sur le plan de la personnalité, Je suis persuadé que beaucoup d'Américains, beaucoup de jeunes Américains en particulier, doivent se demander aujourd'hui où est-ce qu'on en est, Comment on en est arrivé là? Mais c'est fait. Je crois que on attend pour voir la suite. Mais pour quelqu'un qui a suivi la politique américaine depuis les 8 dernières années, vous savez que vous êtes certain d'une chose, C'est que cet héritage va rester, cet héritage va être difficile à effacer, Donc, tout cela est rassurant.
Le professeur Leonard Van Chekon de Princeton University, ici aux États-Unis. Pour sa part, le président élu Donald Trump a dénoncé hier soir dans un tweet ce qu'il a appelé une chasse aux sorcières politiques et de fausses informations après la publication par des médias américains de mémos contenant des informations compromettantes sur ses relations avec la Russie. Ces mémos, qui forment un document de 35 pages, contiennent des informations sur la vie personnelle et intime du prochain président, ainsi que sur ses finances. Ils font également état de communications suivies pendant la campagne entre l'équipe de Donald Trump et la Russie. Selon la chaîne CNN, les chefs du renseignement américain ont remis vendredi à Donald Trump deux pages de résumé de ce document de 35 pages. Plusieurs médias américains ont parallèlement mis en ligne mardi soir des copies du document, tout en indiquant qu'ils n'étaient pas en mesure de l'authentifier.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a nommé l'ancien secrétaire général à la présidence, Amadou Gon Coulibaly, au poste de premier ministre. Le nouveau premier ministre remplace son prédécesseur, nommé plus tôt vice-président, Eddy Issango.
Le président ivoirien a signé un décret portant nomination de M. Amadou Gon Coulibaly, 57 ans, en qualité de premier ministre, chef du gouvernement, selon un communiqué de la présidence. Selon les textes, M. Coulibaly doit proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. La nomination de M. Coulibaly survient après celle de son prédécesseur, Daniel Kablan Duncan, au poste de vice-président. Le poste de vice-président a été créé par la toute nouvelle constitution adoptée récemment par référendum. M. Duncan devient ainsi le deuxième personnage de l'État à l'image des institutions américaines. La veille de sa nomination, Guillaume Soro a été reconduit au perchoir de l'Assemblée nationale.
Rapport ou report de la mission de la CEDEAO qui était attendue aujourd'hui à Banjul, la Cour suprême a affirmé hier qu'elle ne pourra pas examiner le recours déposé par le président Yahya Jammeh avant plusieurs mois. Abdourahmane Dia.
À la demande du président Yahya Jammeh, les dirigeants ouest-africains ont reporté à vendredi leur visite à Banjul. Cette mission devait être conduite par le chef de l'État nigérian, Muhammadu Buhari, et la libérienne Ellen Johnson Sirleaf, présidente en exercice de la CEDEAO. Une précédente tentative, le 13 décembre dernier, n'avait pas fait infléchir l'homme fort de Banjul. Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Jeffrey Onyema, a assuré hier qu'un transfert pacifique du pouvoir est préférable, mais qu'un recours à la force n'est pas exclu. La veille de l'an, Yahya Jammé avait exclu toute négociation avec la CEDEAO, l'accusant de partialité. Le 20 décembre, il avait affirmé qu'il ne céderait pas le pouvoir tant que la Cour suprême n'aura pas statué sur son recours. La Haute Cour a répondu hier qu'elle ne pourra pas statuer. Plusieurs juges manquent à l'appel depuis plus d'un an et demi. Le magistrat nigérian Emmanuel Fangbenle, président de la Cour suprême, a dit qu'il faudra plusieurs mois pour les remplacer. D'ailleurs, l'audience qui était prévue hier a été renvoyée au 16 janvier pour permettre de trouver une solution pacifique.
La Minute Éco, Arzuma Compaoré.
752 kilomètres, telle est la distance de la ligne ferroviaire reliant désormais Addis Abeba à Djibouti. La nouvelle voie ferrée, qui sera entièrement électrique, une première en Afrique, a été réceptionnée en début de semaine par les autorités djiboutiennes. La liaison avec le port de Djibouti se fera entre 8 et 12 heures et les convois de marchandises rouleront à une vitesse maximale de 90 km avec des charges allant jusqu'à 3500 tonnes. La réalisation du projet confié à un consortium chinois aura pris 4 ans. L'Éthiopie prévoit de construire ou de réhabiliter 8 lignes, soit un total de 5000 km de voies avant 2020. Son objectif, devenir un hub au cœur d'une ligne ferroviaire transafricaine. Hydrocarbures au Gabon, le patron de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale et actuel ministre délégué auprès du ministre de l'économie, Pascal Houandji Ambouroué, est désormais le ministre du pétrole et des hydrocarbures. Le Gabon, qui est perçu aujourd'hui comme un vieux pays pétrolier, fait face à une baisse constante de sa production d'or noir depuis 1995. Les tensions politiques issues de la dernière élection présidentielle ont également entraîné des grèves dans le secteur pétrolier, ce qui ne rassure pas les investisseurs potentiels. De nouvelles salles de cinéma et de spectacles en Afrique de l'Ouest. Le groupe français Vivendi, dirigé par Vincent Bolloré, s'apprête à ouvrir 4 salles au Burkina Faso, au Cameroun, en Guinée et au Niger en janvier et février. Certains de ces pays ne comptent plus de salles de cinéma en activité.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
L'information sport, c'est bien évidemment la FIFA qui voit la Coupe du Monde en grand. 48 équipes lors de l'édition 2026.
Oui, le Conseil de la FIFA, le gouvernement du football mondial, a adopté aujourd'hui à Zurich la proposition défendue par le président Gianni Infantino. Pour Gianni Infantino, qui a succédé, vous vous en souvenez, en février dernier à Sepp Blatter, ce passage à 48 équipes va accroître l'intérêt sportif de la compétition en donnant à plus de pays, et pas seulement les grandes puissances du foot, l'espoir de se qualifier. On rappelle que lors de la création de la Coupe du Monde en 1930, il n'y avait seulement que 13 équipes. On est passé à 24 en 1982, puis 32 en 1998. On voit donc que la Coupe du Monde grossit. Elle se disputera donc désormais à 48 pays lors du Mondial 2026. Il y aura une première phase éliminatoire de 16 groupes de 3 équipes, les deux premiers de chaque groupe étant qualifiés pour les 16e de finale. Alors la grande question, c'est évidemment la répartition. Eh bien, aucune précision n'a encore été apportée sur la question cruciale de la répartition selon chaque confédération. On rappelle qu'actuellement, l'Afrique compte 5 représentants à la Coupe du Monde. Une première réaction sur VOA Afrique, du Tchad, une petite nation du football justement. On écoute Djibril Mahamat Dembélé, le secrétaire général de la Fédération tchadienne de football.
C'est vrai, ça peut aider des petits pays. Mais le problème, si on parle de problème sur le plan africain, il est positif si l'Afrique ne perd pas ses acquis, à savoir que nous avons aujourd'hui 5 représentants. Si les 5 restent et on les complète, c'est bon. Mais si les 5 se voient partir et puis on partir à 4 ou bien à 3, je ne trouve pas vraiment l'intérêt. Mais c'est vrai, c'est un projet qui est vraiment ambitieux et puis je pense que c'est encore dans une réflexion. Nous, on trouve que si l'Afrique garde ses acquis, il n'y a pas de problème. C'est positif que ça puisse nous amener à 7, il n'y a pas de souci. Mais si l'Afrique perd des places, je pense que ce n'est pas tellement intéressant.
Djibril Mahamat Dembélé, le secrétaire général de la Fédération tchadienne de football.
Nicolas, c'est aussi une histoire de gros sous.
Oui, c'est ce que dénonce par exemple l'Association européenne des clubs, qui parle d'une décision qui a été prise pour des raisons politiques plutôt que sportives, et c'est regrettable. On le voit, l'argument est aussi financier. Selon un rapport confidentiel de la FIFA, consulté par l'AFP, un mondial à 48 pays assurerait une hausse conséquente des revenus, 640 millions de dollars supplémentaires par rapport aux prévisions d'un mondial à 32 pays lors du mondial 2018 en Russie. Autre chiffre, les revenus des droits de télévision progresseraient également de 505 millions de dollars et ceux du marketing de 370 millions de dollars, selon cette même analyse.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, l'ancien candidat à l'élection présidentielle, André Okombi Salissa, en clandestinité depuis des mois, a été arrêté hier à Brazzaville par les forces de sécurité congolaises. L'opposant est actuellement détenu à la Direction générale de la surveillance du territoire. Sa famille politique et certains acteurs de la société civile s'inquiètent pour son intégrité physique. Des détails avec Nguela Ngoussou, notre correspondant à Brazzaville.
Cette arrestation a été confirmée à VOA Afrique par le colonel Jules Mokalanchumu, porte-parole de la police. L'ancien ministre Okombi Salissa, passé depuis quelques 2 ans à l'opposition et qu'on croyait en fuite à l'étranger, a finalement été arrêté dans un quartier de Brazzaville. IDC, sa famille politique, a aussitôt dénoncé une arrestation arbitraire et tyrannique. Charles Zachary Bowao est le président de l'IDC.
Finalement, nous avons eu la confirmation qu'il se trouve en ce moment à la DGS. Et nous sommes en train de prendre les dispositions pour l'accompagner, l'assister, faire en sorte qu'il ait à sa disposition un avocat. Pour nous, ce fait vient confirmer que le Congo n'est pas un état de droit et que le pouvoir qui est là est un pouvoir illégitime. Il ne peut entreprendre que de façon illégitime. Nous avons des prisonniers politiques. Okombi ne sera qu'un de plus.
Dans l'opinion nationale, beaucoup d'interrogations sur les conditions de cette arrestation, vu que l'opposant ne s'était plus montré en public depuis l'élection présidentielle de mars 2016, dont il a été candidat. Luamba Moke, le président d'une ONG locale qui travaille sur l'univers carcéral, se dit très inquiet.
Parce que là, nous ne considérons pas la Direction générale de surveillance territoire comme étant un lieu carcéral. Pour nous, le lieu carcéral, c'est la prison centrale, la maison d'arrêt. Le Congo est devenu un pays champion, effectivement, de la torture et que nous craignons que ce monsieur, un ancien ministre, puisse subir la torture, parce que vous savez bien que ceux qui ont travaillé avec Okombi, certains ne sont plus en vie plus tôt, d'autres ont été torturés comme Kalakala, comme Okuya, ils sont nombreux parce que nous avons toute une liste des gardes-corps qui ont subi effectivement des véritables tortures.
Récemment, le procureur de la République, André Okongakala, avait demandé la levée de l'immunité parlementaire de André Okombi Salissa pour ouvrir des poursuites judiciaires contre lui. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Le Togo organisera en 2018 des élections législatives, des échéances électorales qui ne devraient pas se tenir sans les réformes tant attendues depuis 2006, à en croire certains partis de l'opposition. Du côté du pouvoir comme de l'opposition, des actions sont d'ores et déjà annoncées pour que ces réformes se fassent. Reportage à Lomé de notre correspondant Kay Lawson.
Depuis une dizaine d'années, les Togolais espèrent les réformes institutionnelles et constitutionnelles qui tardent à être faites. C'est l'accord politique global APG signé en août 2006 à Ouagadougou qui relève la nécessité de ces réformes pour permettre au Togo de sortir de la crise politico-sociale que vit le pays. La commission Vérité, Justice et Réconciliation revient dans ses recommandations sur ce point de l'APG. Et même des réflexions ont été menées à cet effet en juillet dernier sous l'égide du Haut Commissariat à la Réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRON. Que de temps écoulé, la classe politique togolaise ne veut plus patienter. dans leur impatience, six partis politiques de l'opposition se retrouvent dans une coalition pour mener des actions en vue d'arracher les fameuses réformes. Maître Dodia Pévon, président des Forces démocratiques pour la République FDR, membre du groupe des six.
On a créé un groupe pour lancer la dynamique d'une opposition unie pour faire les réformes. Nous avons bâti notre démarche sur l'atelier du HCRO. La limitation du mandat, du nombre de mandats présidentiels, le monde de ce que c'est. Tous ceux qui sont allés là-bas ont dit, c'est fini, on s'est entendu. Si la classe politique se retrouve quelque part et s'entend par consensus sur quelque chose, mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut mettre le consensus en application. C'est pour ça que nous disons, compte tenu de l'urgence de ces réformes-là, il faut aller à l'Assemblée pour les régler. Et les autres sujets qui sont des sujets plus délicats, confier ça à une commission consensuelle qui aura du temps pour y réfléchir.
Le 3 janvier dernier, le président Fornia Singbe a pris un décret nommant les membres de la Commission nationale de réflexion sur la réforme. Le groupe des six émet deux réserves. Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais.
Nous avons émis deux observations. La première n'a pas été constituée de manière consensuelle. La deuxième, ça ne définit pas un délai pour déposer, parce que nous voulons plus nous mettre dans cette attente indéfinie de réforme hypothétique que le peuple attend.
Pour le chef de file de l'opposition, la mise en place de cette commission de réflexion sur les réformes s'apparente à un coup de force. Nous écoutons Jean-Pierre Fabre.
Le chef de l'État n'a pas le droit de mettre en place cette commission, sauf à vouloir décréter la mort de l'accord politique global. Cet acte de vouloir mettre fin unilatéralement à l'APG, pour nous, s'apparente au coup de force ou au coup d'État du 5 février 2005.
Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Le Gabon se prépare à l'ouverture de la CAN 2017. Les hommes d'affaires qui ont un peu souffert des effets de la crise politique espèrent une relance de l'économie, surtout à Oyem dans le Nord qui accueille les matchs du groupe C. Reportage Edwin Moki Edwin Kinzeka, repris ici par Anastasie Toudièche.
L'hymne des éléphants de Côte d'Ivoire joue à plein volume au cœur du marché central d'Oyem. La CAN démarre le week-end prochain. 16 équipes vont s'affronter. Alain Traoré, grand supporter de l'équipe ivoirienne.
Vous avez le football, il faut une entente. Parce que vous voulez aller les meilleurs joueurs du monde. S'il n'y a pas entente, vous ne pouvez pas aller quelque part. Donc c'est ce que je peux leur demander. Quoi. C'est pas si vous recevez mon message. Donc ils n'ont qu'à oublier les rancœurs, les querelles là. Sur le terrain, là, c'est un seul ballon.
Les éléphants sont dans le groupe C et ils vont croiser le fer avec le Gabon, le pays hôte, la République démocratique du Congo, le Maroc et le Togo. La passion du ballon rond sera à son apogée. Dans les rues d'Oyem, les spéculations vont bon train sur les retombées économiques de la CAN. Le Gabon a été touché par la chute du cours des matières premières. Le prix du brut a baissé de près de 70% alors qu'il était la principale source de revenus. Pour Gabriel Zomo, économiste d'origine gabonaise, les affaires, tout comme les salariés, sont touchés par la récession.
Les taux d'inflation restent relativement acceptables. L'inflation dans la CEMAC tourne à peu près autour de 3-4%. Mais lorsque nous regardons les soldes extérieurs, c'est là où la situation devient vraiment préoccupante. À cela s'ajoute évidemment l'environnement des affaires qui s'est détérioré. Lorsqu'on voit Doing Business, le Gabon a perdu 6 places. Et donc tous nos pays ont un environnement qui n'est plus propice à l'investissement. Et c'est ça la grande préoccupation. Et si nous ajoutons enfin le problème de la dette, notre dette commence à ne plus être viable. Le problème de fond est en réalité le manque de compétitivité de nos économies.
Lola Agnès, propriétaire d'un restaurant, espère que la clientèle venue pour la CAN va relancer ses affaires.
Quand il n'y a pas de mouvement, quand il n'y a pas de fête, ou bien quand il n'y a pas trop de soleil, il n'y a pas de clients. Mais on peut quand même rentrer avec un 25 000 à la maison, 50 000, il vaut mieux ça au lieu de rien. Je peux arriver que j'atteigne 100 000 ou plus de 100 000 francs. Mais parfois, deux fois, ça me rapporte, ça m'aide, ça me soulage beaucoup.
Lola Agnès, comme d'autres chefs d'entreprise, espère que la CAN 2017 va relancer le tourisme au Gabon. Les matchs devraient être vus par des milliards de personnes à travers le monde, offrant aux joueurs et au pays une tribune unique. La CAN se jouera à Libreville, Franceville, Port-Gentil et Oyem.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Un groupe d'artistes, notamment des musiciens du Nord Mali, ont entamé depuis la semaine dernière et pour 3 semaines un festival de musique et de théâtre dans toute la région de Tombouctou. Bagassikoura a joint à Nia Funke Sekou Touré, le président du festival.
Notre festival est sur la paix et réconciliation, vivre ensemble, ça c'est notre festival. Nous sommes des jeunes artistes formés par Apple Bokoum et par Katouré. Donc on a eu un Américain qui s'appelle Paul Chandler, instrument for Africa, c'est nous qui nous aide. Vraiment, il cherche des financements pour nous aussi on cherche, pour que vraiment on veut vraiment faire tout le Nord à travers notre culture et des théâtres, avec de la musique, sensibilisation sur la paix. C'est ça qu'on peut faire pour notre pays, le Mali.
Concrètement, comment ça se passe, le festival?
Jusqu'à aujourd'hui, vraiment, on n'a aucun problème. Tout a été parfait, vraiment. Les gens ont compris notre ce qu'on voulait faire. Ils étaient très contents de ça. On a appelé tous les gens, pardon, tous les côtés, les Touaregs, les Arabes. Vraiment, on a fait ça tranquillement, vraiment, sans problème aussi.
Le concert même, c'est quoi?
Parce que ça se passe à Nia Funke. On a invité toutes les communes, les villages, là où il y a les Touaregs qui ont des groupes. On les amène. Là où il y a les Apple Bokoum, les Innababa Koulbali, les Mariankouna de Bamako, il y a Kibar Junior de Nia Funke, les gens de Tombouctou, Diré, Gundam. Partout, là où on vraiment notre moyen peut arrêter, on amène tous les musiciens et tout va sur la sensibilisation, sur la paix, à travers la culture.
Comment est la mobilisation?
Vraiment, la mobilisation a été parfaite. Tout le monde est sorti. Vraiment, les gens ont compris ce que nous voulions dire ou bien ce qu'on voulait faire. Vraiment, il y a beaucoup de gens vraiment qui veulent nous appuyer aujourd'hui, qui n'ont pas de moyens financiers. Mais ils étaient avec nous dans l'organisation. Vraiment, on est très, très contents. Même le maire de Nia Funke, les gens ont été très, très contents de ça, vraiment.
Qu'est-ce que vous visez à travers un tel festival dans une zone en pleine insécurité?
Notre objectif était de vraiment faire la paix à travers notre culture et notre ce que nous pouvons faire. Nous sommes des jeunes artistes. On peut faire comprendre les gens, vraiment, qu'est-ce qui est passé dans le pays, qu'est-ce qui ne va pas. C'est ça. C'est parce que le guerre de Mali, on peut dire que ce n'est pas nous, ce n'est pas le Mali. Il y a des gens qui sont derrière nous et essaient de gâter notre pays. Quant à nous, on peut vraiment très bien se comprendre. Donc, à travers ça, on le fait, on les explique. Ça, c'est ça, ça, c'est ça. Donc, vraiment, on n'a qu'à donner la main pour travailler notre pays, le Mali.
Sekou Touré, président du Festival de musique joint au Nord Mali.
Branché 24/24 sur VOA Afrique à Bamako au Mali sur 102.0 FM.
Le décès du réalisateur guinéen Fanta Madi Camara, qui s'est éteint samedi à Paris à l'âge de 57 ans, a bouleversé le monde du cinéma jusqu'en Europe et en Amérique du Nord. Joint par Nathalie Barge à Conakry, l'expert en culture et rédacteur en chef de Lynx FM, Azokaba se souvient de l'ardent défenseur du cinéma africain.
C'est une icône du cinéma guinéen qui vient de disparaître. Nous avons été très émus parce qu'il faut dire que nous avons côtoyé Cheikh Fanta Madi Camara dès ses premiers pas ici, quand il est venu présenter son court-métrage Conorophilie, qui faisait un peu un lien entre la sagesse et l'actualité guinéenne. Quand encore il était venu à Conakry pour faire le tournage du film Il va pleuvoir sur Conakry, on a réussi à faire des grandes interviews avec lui. Donc c'est une grosse perte pour le cinéma guinéen parce que Cheikh Fanta Madi Camara, au-delà d'être réalisateur cinéaste, était aussi dans la formation de ses jeunes étudiants à l'Institut des Arts de Guinée de Dibreka. Et il avait beaucoup d'autres projets cinématographiques. Malheureusement, il est mort à la fleur de l'âge sans avoir parachevé tout ce qu'il avait comme ambition pour le rayonnement du cinéma guinéen.
Il avait commencé en 2010 son second long métrage Morbayassin. Il lui a fallu, je crois, quasiment 5 ans pour pouvoir le réaliser, faute d'argent. Il a même dit « Je ne savais pas que j'allais souffrir autant dans mon deuxième long métrage ». Alors, qu'y a-t-il à dire, là, finalement, sur le fait que le cinéma africain est difficilement promu par les gens qui pourraient le faire?
D'une façon générale, la culture africaine, et particulièrement en Guinée, c'est le cadet des soucis des autorités. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une inauguration d'une salle Olympia de cinéma qui va prendre 300 places. Mais quand vous vous promenez en Conakry, toutes les anciennes salles de cinéma ont été transformées en magasins, en boutiques. Il n'y a pas de financement pour les films qui sont réalisés par les cinéastes guinéens. Il n'y a pas une véritable politique culturelle qui prend en compte tous les aspects de la culture. C'est vraiment un peu révoltant qu'un pays qui a des cinéastes comme Cheikh Fanta Madi, Cheikh Doucouré ou Mohamed Camara, que ce pays ne puisse pas avoir une structure qui subventionne le cinéma. C'est vrai qu'il y a un office national du cinéma et de la photographie en Guinée, mais cet office n'a pas un budget conséquent qui lui permet même de surveiller les simples productions qui se font sur le terrain. Ces cinéastes sont victimes aussi de la piraterie. Vous pouvez retrouver les films sur le marché local qui sont piratés et qui sont vendus à vil prix. Les États africains devraient faire en sorte que le cinéma puisse bénéficier des subventions.
Le confrère Azokaba, rédacteur en chef de Lynx FM à Conakry. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.